Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est l'émission Parole à musique qui prend l'antenne à Foi FM. Raymond Perron ici, Mac Wickfield, toujours heureux de vous accueillir. Hein. Nous sommes un tandem joyeux puisque nous sommes dans la musique à chaque samedi. Et nous espérons vous communiquer, bien sûr, la vision. Oh, subtil, hein, subtil ici. Oui. Un premier indice du cantique que nous verrons ce matin. Alors, effectivement, Mac, pourquoi attendre davantage? Plongeons dans le vif du sujet et allons-y joyeusement pour considérer l'hymne que vous nous proposez aujourd'hui.
Notre chant pour cette émission, Raymond, s'intitule, effectivement, « Be Thou My Vision ». Un cantique irlandais à l'origine d'une profondeur considérable et dans sa structure poétique et dans sa théologie. Et je crois qu'il y a un mot qui s'impose au sujet du titre, ce mot « vision », qui est « vision » en anglais. Mm-hmm. Ce sont les Allemands qui ont forgé le concept et inventé le grand terme « Weltanschauung », qui est philosophique.
J'attendais avec impatience, j'aime tellement votre accent germanique, wow. J'attendais effectivement le mot.
En anglais, on dit « worldview ».
Bien.
Alors, on va faire référence, faire allusion à cela. Ce que nous appelons en français « vision du monde », je crois.
Oui.
Ce texte invite le Seigneur à être notre interprète de la vie, de tout, afin que nous voyons comme il voit et que nous agissions en conséquence. Alors, le cantique lui-même, je l'ai traduit comme suit. Sois toi-même mes yeux, ô Seigneur de mon cœur, que tout autre interprète ne soit rien pour moi, sauf toi seul. Toi, ma meilleure pensée de jour comme de nuit, au réveil ou en sommeil, que ta présence soit ma lumière. Sois toi-même ma sagesse et toi ma parole de vérité. Moi ensemble avec toi et toi avec moi, Seigneur. Toi mon grand-père, moi ton vrai fils. Toi qui habites en moi et moi-même un avec toi. Sois toi-même ma cuirasse, mon épée pour la bataille. Sois toi-même mon armure et toi ma force. Toi le refuge de mon âme et toi ma haute forteresse. Élève-moi vers le ciel, ô toi la source de ma puissance. Les richesses ne m'attirent pas, non plus la louange vide des hommes. Toi, tu es mon héritage maintenant et à jamais. Toi et toi seul, premier en mon cœur. Souverain roi céleste, tu es mon trésor. Roi souverain du ciel, ma victoire gagnée, puis-je atteindre moi les joies du ciel, ô soleil céleste et brillant. Toi, au cœur de mon propre cœur, quoi qu'il m'arrive, fais que je voie toujours comme tu vois, ô maître de tout.
Certainement, Mac, une prière que nous faisons nôtre, hein, une prière qui devrait être celle de chaque croyant.
Oui.
Puisque, effectivement, hein, nous sommes morts avec le Christ et ressuscités en nouveauté de vie avec lui, nous voulons vivre de sa vie, voir comme il voit. Et bien sûr, le glorifier dans tous les aspects de notre existence. Maintenant, j'imagine que, non, je fais plus qu'imaginer, j'ai la conviction profonde que vous avez des versions, des présentations chantées là à nous offrir.
Oui, il est de notre habitude et nous allons écouter une première mise en musique assez simple de ce chant à l'air classique qui s'appelle Slain, c'est le nom de l'air. Et notre chanteuse s'appelle Astrid Cowan. Nous allons écouter Be Thou My Vision.
Alors Marc, il nous reste maintenant à voir un peu, pas mal, si possible, la théologie qui se dégage de ce cantique-là. Nous sommes ici dans ce que nous pourrions appeler, vous avez parlé tout à l'heure de vision du monde, on pourrait utiliser également, mais je préfère comme terminologie perspective du monde pour le world view, mais ça revient au même. Hein? Et nous en avons tous une perspective du monde. Les gens ne le réalisent pas toujours, mais nous avons tous une perspective du monde malgré qu'on n'en soit pas toujours conscient. Comment est-ce que nous interprétons la vie? Comment est-ce qu'on interprète les circonstances qui défilent dans nos vies? Quelle lecture faisons-nous? De la souffrance, par exemple, du mal, de la mort, elle reste. Nous avons tous une perspective, nous avons tous, je dirais, une grille de lecture qui nous fait donner une interprétation à tout cela. Et notre perspective du monde peut être très cohérente, hein? Dans la mesure où elle est là, bien arrêtée, bien encadrée, ou, comme c'est le cas, la plupart du temps, elle peut être complètement incohérente, allant jusqu'à l'existentialisme. Par exemple, quelle est la place de Dieu dans ma perspective du monde? Les gens vont dire, bon, mon Dieu, mais Dieu a une place dans la perspective du monde. Si on dit que Dieu n'est pas là, que Dieu ne fait pas partie du discours, on vient de se prononcer sur la place de Dieu dans ma perspective du monde, n'est-ce pas? On vient de réduire tout ce qui se passe sur la terre, pour reprendre l'expression de l'Ecclésiaste, à ce qui a cours sous le soleil. Est-ce qu'il y a une place pour Dieu? Si oui, quel Dieu? C'est extrêmement important. Il y a toute une pléthore de divinités génériques auquel on peut faire appel, hein? Mais le Dieu de la Bible, c'est une autre mouvance. Une divinité générique, le Dieu de la religion, que je peux amadouer par de bonnes œuvres, ou le Dieu de la Bible, les trois n'ont rien de commun. Il n'y a aucune commune mesure entre ces trois concepts de Dieu. Permettez-moi un exemple qui me servira d'ailleurs de matériel là pour faire ressortir la théologie de ce cantique-là. Un exemple, donc, en faisant appel à un passage de l'Écriture sainte où nous voyons des gens qui ont une perspective du monde bien arrêtée. Alors, Paul venait d'aller à Thessalonique. La bienvenue laissait un peu à désirer, vous vous en souviendrez, il avait été persécuté, et il décide de se rendre à Bérée. Et nous lisons donc dans Actes, chapitre 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et voici ce qui nous intéresse particulièrement ici. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Imaginez que c'était Paul qui leur parlait, là. « Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Leur perspective du monde était la suivante. Nous pensons les pensées de Dieu après lui. Parce que si on veut être dans la vérité, Dieu est la vérité, Dieu a révélé la vérité. Si on veut être dans la vérité, on repense, on redit ce que Dieu a déjà dit. Hein? Nous sommes des deuxièmes interprètes. Alors, une perspective du monde très claire. Pardon. Donc, quelle est ma mesure de la vérité? Si on demandait ça aux gens aujourd'hui, si on était dans la rue avec un microphone, quelle est votre mesure de la vérité? Bon, on dit, la vérité, vous savez, hein? La vérité, ça n'existe pas vraiment, la vérité. La postmodernité, c'est chacun l'a fait, quoi. Alors, est-ce que c'est ma raison finie? Si je considère que l'appel à ma raison est l'appel ultime, alors là, j'ai une difficulté, je divinise ma raison. Et là, je suis forcé d'admettre que ma raison est plus raisonnable que la raison de l'autre. Alors, qui a raison entre les deux raisons? Hein? Lorsqu'on se met à discuter et on dit « soyez raisonnable », ce qui est raisonnable pour nous n'est pas de facto raisonnable pour l'autre à côté. Si ce n'est pas ma raison, est-ce que c'est ce que la majorité croit? Une espèce d'éthique de statistique. Ah, ben, tout le monde pense là, tout le monde le fait le don, disait-on à l'époque. Hein? Qu'en est-il lorsque les pensées opposées sont pratiquement en parité? Il y a quelques années, par exemple, les pro-vie hein, et les pro-choix étaient à peu près 50-50. Alors, de quel côté on penche à ce moment-là? Est-ce que la majorité a raison? Est-ce que c'est vrai, vox populi, vox dei? Il y a une certaine vérité dans les élections, mais ce n'est pas une formule, n'est-ce pas, appliquée tous azimuts. Hein? Alors, si c'est pas ma raison finie, si c'est pas la majorité, est-ce que la majorité croit, à ce moment-là, est-ce que la vérité, c'est ce qui fonctionne? Le pragmatisme, hein? Qu'en est-il du vendeur de drogue qui fait une fortune au coin de la rue? Qu'en est-il du mafioso, n'est-ce pas, qui mène joyeuse vie et qui semble au-dessus de la mêlée? Hein? Il y a bien des choses qui fonctionnent et qui sont très très loin d'être recommandables. N'est-ce pas? Si c'est ce qui fonctionne, on préférerait quitter ce monde rapidement, parce que ce qui fonctionne n'est pas toujours correspondant à la moralité. On n'a qu'à penser à Paul, qui se présente à Éphèse, vous vous en souviendrez, et qui littéralement met l'économie complètement par terre, alors qu'il dénonce la grande Diane des Éphésiens, vous savez, ces producteurs de statuettes-là. Et là, tout le monde veut bien sûr se débarrasser de Paul, mais écoutez, lorsqu'une économie repose sur le péché et qu'on veut la réformer, ben il faut parfois y aller par une petite période un peu plus creuse. Alors, si c'est pas ma raison finie, la vérité, si c'est pas ce que la majorité croit, si c'est pas ce qui fonctionne, qu'est-ce que c'est? Ah, ben c'est peut-être ce qui est scientifiquement vérifiable. Hein? Alors là, je divinise la science. Et elle s'est avérée dans le champ, passez-moi l'expression, plus souvent qu'autrement. On n'a qu'à penser encore des dernières études du carbone 14, hein, allo, 1-2 testing. Hein? C'est très très loin d'être trop fiable. Alors, si je divinise la science, je dois renoncer à toute métaphysique. La science n'a pas accès véritablement à la métaphysique. Je dois renoncer à comprendre Dieu, à comprendre la présence du mal, à comprendre la question de la vie après la mort. Il reste quoi? Si c'est pas ma raison finie, si c'est pas ce que la majorité croit, si c'est pas ce qui fonctionne, si c'est pas ce qui est scientifiquement vérifiable, est-ce que ça pourrait être une révélation objective qui lie tout le genre humain? Ben, c'est précisément ce que faisaient les Béréens, et ils sont loués pour cela, nous est-il rapporté, ils avaient des sentiments plus nobles. Souvenez-vous ce que le maire de Saguenay, le maire Tremblay, disait à la commission Bouchard-Taylor? La Bible, c'est la charte universelle du genre humain. Quelle belle parole. Alors donc, en bout de ligne, lorsqu'on considère toute cette question-là, de la perspective du monde, du worldview, il y a deux possibilités. Autonomie ou théonomie. Autonomos, je suis une loi à moi-même, ou théonomos, je me soumets à la loi de Dieu. Dans l'autonomie, je deviens mon propre législateur, je deviens mon autorité ultime, je décide de ma vérité, je prétends avoir la réponse aux grandes questions de l'existence, hein, d'où je viens, où je vais et qui suis-je. Et le pourquoi et le comment de la vie, elle reste. Dans le cas de la théonomie, ben voilà ce que j'ai à reconnaître, je suis une créature de Dieu. Ah ben voilà, je suis une image, je viens de trouver mon identité. Parce que une image a pour rôle, a pour raison d'être, de refléter l'original. Alors je suis une créature de Dieu et je vis selon sa révélation. Hein? J'ai accès aux réponses aux grandes questions de l'existence parce que Dieu nous les donne. Je suis une créature de Dieu, je marche dans cette vie en deux directions possibles, je marche soit vers la félicité éternelle ou vers le jugement éternel, je suis porteur de l'imago Dei, hein? Je suis différent d'une coquerelle ou d'une fourmi ou d'une souris, hein? Ou d'un buisson, je suis une créature de Dieu et je vis pour sa gloire et je vis sous sa gouverne. Et la synthèse de la révélation biblique, c'est la suivante. Au départ, elle explique la création, elle explique la provenance et l'existence de l'univers. Hein? On peut remonter jusqu'au Big Bang, mais il faut quand même déterminer qu'est-ce qui a fait Big Bang à un moment donné. Oui? Elle explique également la présence du mal en nous parlant de la chute. Voyez-vous, le triple motif création, chute, rédemption nous explique toute l'histoire de l'humanité. En nous rapportant la chute, elle nous explique la présence du mal dans ce monde et en moi. Et par la rédemption, ben, nous avons l'essence de la bonne nouvelle. Elle nous apporte l'espérance, l'espoir. C'est dans cet esprit que l'auteur de ce cantique, que vous nous avez si bien traduit ce matin d'ailleurs, s'exprime, hein, il s'engage à penser les pensées de Dieu après lui. C'est ainsi que dans toutes les sphères de sa vie, il veut que le Seigneur soit sa lumière et son interprète. Et sans relire chacune des strophes, je les synthétise, si vous me permettez. Dans la première strophe, il dit à Dieu, « Sois ma perspective. Donne-moi la juste interprétation de la réalité. » Dans la deuxième strophe, « Sois ma sagesse. Éclaire toutes mes décisions. » dans la troisième strophe, « Fais en sorte que je reconnaisse que c'est toi toute ma richesse, ce que j'ai de plus précieux. » Et dans la quatrième strophe, « Seigneur, sois ma victoire. » Cette victoire que tu as acquise si chèrement au calvaire.
Merci Raymond. C'est un chant qui, de manière assez majestueuse, invite Dieu à être mon interprète, comme vous dites, pour voir la vie avec ses yeux. L'histoire du chant a pour lui un petit, on pourrait dire, brouillard autour peut-être de lui, bien que certains attribuent « Be thou my vision » à un poète chrétien du 6e siècle en Irlande, du nom de Dallan Forgaill. En général, le chant est considéré comme étant anonyme, écrit à l'origine en langue celtique, durant le 8e siècle. Il est parmi nos plus anciens cantiques, mais sa demande première est d'une actualité, comme vous venez de dire. Je crois que ce ne sont pas tous qui cherchent cette vision, cette façon de voir le monde avec les yeux du Dieu éternel. Si nos auditeurs aimeraient d'ailleurs l'écouter en celtique, il est possible de le trouver dans l'article sous le nom du cantique au site anglais de Wikipédia. Tout est disponible sur l'Internet de nos jours. L'air du cantique porte le nom d'une colline en Irlande, où Patrick, celui qu'on appelle souvent Saint-Patrick, a défié un décret du roi et de ses prêtres druides. La coutume voulait que ce soit le roi seul qui devait allumer le premier feu de l'équinoxe, le festival printanier, un rite païen. Mais Patrick ignorait ses ordres et a allumé à son tour des chandelles la veille de Pâques en célébration de la résurrection du Christ. Et le roi, impressionné par cette dévotion, autant peut-être par son audace, a permis à Patrick de continuer son œuvre missionnaire à travers l'île. Mais nous regardons plutôt quand même la traduction du cantique original en anglais, qui, en mon cas du moins, a grandi avec moi. C'est une femme du nom de Mary Byrne, une linguiste qui a pris la peine de traduire ce chant en anglais. Irlandaise elle-même est bien qualifiée pour son travail. Madame Byrne travaillait en recherche pour une commission scolaire et elle avait coopéré sur deux projets de dictionnaire dans la langue irlandaise. Le texte de ce cantique a donc vu le jour en anglais en 1905, sa forme poétique ensuite en 1912 sous la main de Eleanor Hull, une Anglaise qui avait déjà écrit plusieurs livres sur l'histoire et la littérature d'Irlande. Le cantique paraît, comme vous dites, comme vous avez dit, sous forme de prière, afin que Dieu soit la trame, le filtre, j'avais presque dit le dictionnaire, selon lequel nous trouvons le sens de la vie, et qui soit le fondement solide et fiable dont nous avons besoin pour marcher et pour le servir.
Amen, en effet. Et nous avons une version finale à écouter avant de clore l'émission de ce matin.
Oui, une deuxième version du cantique, cette fois-ci d'un rythme un peu plus moderne peut-être, présentée par le groupe For Him. Alors je vous invite à l'écoute de Be Thou My Vision.
Qu'il en soit ainsi, mais permettez-moi auparavant, à votre nom, cher Mac, et à mon nom personnel, de saluer nos auditeurs et de leur remercier d'avoir été là, puisque c'est la ponctuation finale de l'émission de ce matin. On vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 17h30 cet après-midi. On vous rappelle aussi, c'est important, entre-temps, il y a l'émission Joy for the Journey qui vient en onde à 14h cet après-midi et on sait qu'elle est en rediffusion également dans la nuit de samedi à dimanche de 2 à 4. Alors merci donc d'avoir été là. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, tout en grâce, tout en paix, tout en bénédiction, sous le regard de Dieu, coram Deo. À bientôt, chers amis.